Allô?
Ouais, Salomé, j'ai une idée pour sororité.
Ah ouais, c'est quoi?
Bah en fait, on pourrait parler de...
Les femmes dans l'islam.
Dans les médias, je pense que t'as dû le voir, Salomé, dernièrement, on a beaucoup parlé des femmes qui portent le voile. Et notamment depuis la presque arrivée au pouvoir de l'extrême droite.
Depuis, même avant, hein, depuis...
Oui, c'est un sujet qui est quand même assez récurrent.
C'est un peu un marronnier des médias...
De la France.
Des médias occidentaux, ouais. Et la France encore plus, ouais.
Bah, c'est vrai que cette image... Donc déjà, on parle beaucoup des femmes voilées sans
les femmes
qui sont voilées. Donc on n'a jamais leur opinion et leur point de vue, qui est quand même le plus important, j'imagine.
C'est toujours... plus intéressant de faire des débats sans les concerner.
Bah c'est ça, avec Marine Le Pen qui se pose comme grande féministe, qui veut libérer les femmes de l'oppression des hommes et de leur voile.
On bien le lapsus libérer.
et en Occident, on a quand même cette image de l'islam comme religion d'oppression pour les femmes, avec des femmes qui sont soumises à l'homme, qui sont dans une situation qui sont d'infériorité, en marge de la société, empêchées d'évoluer. Enfin voilà, tous les stéréotypes et préjugés qu'on peut avoir sur l'islam. Moi, ça fait un moment que je voulais en parler dans sororité. Sauf que, aussi bien toi que moi, on a grandi dans une famille athée. On est incapable. Enfin, on n'a pas de.
On est trop nuls. On n'a vraiment pas de.
pas d'éducation religieuse.
Ouais. Et pas de culture religieuse en général.
Pas de culture religieuse. Donc,
c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'éducation religieuse et on n'a pas cherché à en avoir après, quoi. C'est vraiment.
Voilà.
On n'y connaît rien à aucune religion. Enfin, ouais. Très peu, quoi.
Et pas c'était forcément... compliqué, en fait, pour moi, pour nous, toutes les deux, d'en parler sans avoir quelqu'un de concerné, parce que ça veut dire qu'on reproduisait les stéréotypes avec ce qu'on trouve sur le net en France, qui n'est pas forcément avéré, qui n'est pas forcément... Enfin, voilà, je me voyais pas lancer ce sujet à l'arrache. Et il se trouve que j'ai une copine et collègue, Keltoum, qui pourrait peut-être accepter de répondre à nos questions et d'en discuter avec nous. Et je pense qu'on peut essayer de l'appeler.
Allez, vas-y.
Allô?
Oui, Keltoum?
Oui.
Donc on est en train de parler au téléphone avec Salomé et on voulait parler de la place des femmes dans l'islam.
Ouais.
Et on s'est dit que peut-être tu pourrais en discuter avec nous si ça t'intéressait.
Grave, avec plaisir.
Et voilà, je sais pas sur quel sujet on peut commencer.
Le plus simple par le voile.
Yes. Alors c'est sympa parce que... souvent, sur les médias, etc., on n'invite pas forcément les femmes voilées ou même les musulmanes ou les personnes concernées, en fait, pour parler du voile. Du coup, c'est cool qu'on puisse en discuter.
Peut-être déjà, est-ce que tu peux nous dire... Donc toi, tu n'es pas voilée.
Non,
tu
moi, je ne suis pas voilée.
Mais j'imagine que tu as des connaissances qui le sont.
Exactement, de la famille, des amis.
Et est-ce que déjà on a cette image du voile, une femme qui est voilée en France, elle est obligée de porter le voile parce que souvent c'est son mari, son père, son frère, quelqu'un, un homme dans sa famille qui va la forcer à porter le voile.
Alors moi, dans mon entourage, ce schéma-là, il ne s'est jamais présenté. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie, que ce soit en France ou même en Algérie, hein, dans ma famille ou peu importe, dans toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Enfin, j'en ai jamais vu une qui était forcée de mettre le voile par un homme. Et en fait, même quand on en discute entre femmes, on trouve ça assez drôle parce que c'est souvent l'image qui est donnée par les médias qu'une femme qui porte le voile, c'est parce qu'elle a été forcée. Sauf que toutes celles que je connais, elles portent le voile parce qu'elles en ont envie et par amour de leur religion, en fait. Et elles le portent parce que ça leur fait plaisir et parce que ça fait partie de leur identité, en fait. Et aujourd'hui, quand les sujets sont évoqués d'interdire le voile en France, etc., bah... elles se disent bah, pourquoi en fait on veut nous dicter notre façon de s'habiller alors que on est dans un pays libre, qu'on veuille mettre une mini jupe ou un foulard sur notre tête, en fait on devrait avoir le choix, en fait.
Et en plus c'est sous prétexte de libérer en plus la femme musulmane de l'emprise des hommes.
C'est ça, c'est assez drôle, mais en fait libérer, c'est pas vraiment libérer, en fait, parce que encore une fois, c'est comme si on disait oui, ben, on veut libérer la femme, on va lui interdire de s'habiller comme elle veut, sauf que non, en fait. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des études qui disent ben, combien de femmes sont forcées, qu'il y ait des sondages ou qu'on aille même dans la rue pour voir ces femmes justement qui sont concernées, ces femmes voilées, et qu'on leur demande ben, est-ce que vous avez été forcées de mettre le voile une fois dans votre vie, en fait.
Et le problème, je pense. qui se pose là-dedans aussi, c'est que comme on n'a pas le droit de faire des études sur les religions, enfin, c'est de faire des études sur une partie de la population à partir de sa religion, parce qu'on n'a pas le droit de les recenser. Depuis, tu sais, tu n'as pas le droit de recenser les gens par rapport à leur religion.
Non, je ne savais pas.
Depuis la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, c'est à cause de
ce qui s'est passé
avec les Juifs. Et du coup...
En fait, je vois du coup l'intérêt...
Là, tu l'as, c'est bon. Et en fait, ça empêche beaucoup d'études sociologiques qu'ils peuvent faire, par exemple, aux États-Unis, puisqu'ils ont le droit. En tout cas, ça permet d'avoir des études et des recherches ciblées sur une catégorie de la population, alors qu'en France, on n'est pas capable de le produire puisqu'on peut pas. Et les études des sciences humaines commencent à vouloir le revendiquer, mais c'est compliqué, quoi.
Mais ça reste dangereux, en fait.
Bah, c'est ça, en fait, c'est que c'est dangereux, mais en même temps, c'est aussi ce qui pourrait servir à.
C'est pas possible d'anonymiser.
Plaider la cause, tu vois. Bah, le problème, c'est pas forcément, c'est qu'en plus après même, ok, tu fais des études sur ce que tu veux après aussi.
Ouais,
c'est ça aussi, c'est que même...
Il y a aussi cette question de si, peut-être que sur 10 femmes, il y en a une qui est obligée d'être voilée par son mari. Le fait d'autoriser le voile et de laisser cette pratique libre, ça n'empêche pas de se battre pour celle qui est obligée par son mari d'être voilée et qui n'a pas envie de le faire. Enfin, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on abandonne complètement une partie de la population en disant que c'est ok d'être voilé dans l'espace public et dans sa vie de tous les jours, en fait.
Et moi, j'ai peut-être une question bête, mais dans le Coran, le voile, c'est pourquoi ?
Alors, on va prendre un exemple assez enfantin. C'est comme, on va dire, sur une sucette. Une sucette, il y a un emballage. Je t'en propose une avec un emballage et une sans emballage. Et on va dire que l'emballage, c'est pour la protéger. Et c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est pour la protéger de l'homme. Parce que, comme on le voit dans notre société, les hommes, ils ont tendance à être un peu sales, un peu cruels. Je ne sais pas
si tu peux dire ça. Ouais.
Mais... on va dire que c'est pour protéger du regard de l'homme et surtout pour... en fait, déjà, on va commencer par dire que devant qui la femme a le droit d'enlever son foulard ? Je ne sais pas si vous le savez.
Ah non, mais vas-y.
Elle a le droit devant seulement, on va dire, son mari, son père, ses frères, devant toutes les femmes, et les cousins. En fait, seulement avec les hommes... avec qui elle ne peut pas se marier, avec qui il n'y a aucune possibilité de se marier. Ça peut être grand-père, ça peut être n'importe quelle personne âgée, mais il faut que ce soit un homme avec qui elle a impossibilité de se marier. Et en fait, le voile, on va dire, c'est simplement pour se protéger, pour se préserver du regard des hommes.
Ok.
C'est bizarre un petit peu, mais c'est une pensée très archaïque. Mais...
En vrai, c'est un truc que je peux comprendre parce que je pense qu'il y a des femmes, tu vois, même qui ne sont pas forcément musulmanes, qui vont avoir tendance à se couvrir pour sortir. Mm-hmm. Donc, qui ne vont pas sortir avec la robe qu'elles avaient décidé de mettre parce qu'elles se trouvent trop belles dedans, mais elles ne vont pas sortir avec parce que c'est un peu court.
Elles se trouvent trop belles dedans.
Parce que, bah, voilà. Et parce que tu sais que derrière, il va y avoir des regards et avoir envie de se protéger de ça. C'est quelque chose qui est, je pense, entendable par tout le monde.
Oui, c'est entendable. Après, c'est pas souhaitable, quoi.
Bah, c'est dommage d'être en arrivé là, d'être obligé de faire ça pour se protéger du regard sale des hommes.
C'est chiant, quoi.
Après, ça les empêche pas d'être coquette, de s'apprêter, de mettre des mini-robes à la maison. Et enfin, vraiment, c'est des femmes qui sont très coquettes. Et on va dire, comme nous, on se coiffe le matin, et ben elles prennent plaisir à mettre leur foulard, à se dire, ah ben, aujourd'hui, je vais choisir celui-ci, et puis je vais le mettre de cette façon-là. Et puis, il y a même des bijoux de voile, il y a des petites broches, etc. Ben, tiens, aujourd'hui, je vais mettre une petite broche comme ça, en diamant, enfin... C'est un plaisir pour elles de mettre leur foulard le matin, comme autant que nous quand on se coiffe ou qu'on va se faire un chignon ou peu importe en fait.
Ok.
Et c'est pas du coup, c'est pas obligatoire. Est-ce que c'est obligatoire dans la religion ?
Alors normalement c'est obligatoire.
Ok.
C'est obligatoire à partir du moment où, si je ne me trompe pas, où on a nos règles.
Ok.
Ok.
Après. Après, on va dire que chacune le met quand elle se sent prête. Par exemple, moi, j'y ai déjà réfléchi. Et en fait, c'est, on va dire, la façon de penser de beaucoup de jeunes filles qui se disent « Oui, mais j'ai pas envie de le mettre pour l'enlever ensuite. » Alors qu'on peut, hein, y en a énormément qui le font. Elles le mettent, ensuite elles se disent « Bah non, en fait, j'ai envie de l'enlever. J'ai plus cette envie de le porter, donc je l'enlève. » Les familles sont totalement d'accord. Enfin, y a aucun problème là-dessus. Et sauf que on se dit aussi beaucoup, oui, mais quand je le mets, j'ai envie de le garder pour toute la vie. J'ai envie de que chaque jour où je le mets, ce soit un réel plaisir et parce que vraiment, j'y tiens, quoi. Donc, ouais, c'est normal.
C'est un processus, c'est... en fait, de réflexion. Enfin, moi, je sais qu'on le voit. On travaille dans un collège, on peut le dire, et on le voit avec les enfants qui sont au collège, et on voit qu'il y a un vrai cheminement qui se passe dans leur tête entre le moment où ça se passe souvent entre la cinquième et la quatrième. Hein, ouais. À partir de la quatrième, elles commencent à porter le voile. Et il y a un cheminement qui se fait dans leur tête. Et c'est assez joli d'ailleurs avoir cette réflexion. Mmh. Et c'est super d'en parler avec elles.
Bien sûr. Et puis justement, on le voit aussi dans leur façon de s'habiller. C'est progressif en fait. C'est pas du jour au lendemain. On passe d'une tenue à une autre qui a vraiment rien à voir. C'est petit à petit en fait à mettre des tenues de plus en plus longues.
Qui sont souvent plus féminines en plus.
Exactement.
Elles se féminisent. Tu vois, ça va être souvent des gamines qui vont peut-être avoir tendance un peu à se cacher quand elles vont arriver en 6e, 5e. Et donc elles, ça reste des tenues qui sont... Mais qui sont quand même très féminines. Et tu vois qu'elles prennent plus plaisir à s'habiller une fois qu'elles portent le voile qu'avant, en fait.
Exactement.
C'est en plus, tu peux jouer avec, quoi. Enfin, le fait que...
Oh bah, et puis, c'est super joli, hein. Ouais. Vraiment, on a des gamines.
Ouais. Est-ce que ça doit pas être facile pour elles de l'enlever
Oh bah, moi, c'est un truc qui me fait beaucoup de...
Une petite cérémonie du dévoilement tous les matins.
C'est ça.
Elles attendent vraiment de franchir le portail, vraiment d'être devant pour l'enlever. Et après,
Elles l'ont à la main quand elles sortent du collège, elles l'ont à la main, elles le sortent de leur sac avant. Et en fait, dès qu'elles franchissent la porte du collège, elles le remettent.
Après, moi, je trouve qu'elles sont assez compréhensives.
Oh bah,
et on n'a jamais eu de soucis là-dessus.
Parce que moi, je suis d'autant plus gênée qu'en étant une femme blanche non musulmane, quand des fois, ça arrive qu'elles oublient hein, tout simplement de l'enlever quand elles rentrent parce qu'elles ne le sentent pas, je pense. Mmh. Et du coup, moi, je suis au portail et je suis obligée de leur dire de l'enlever.
Ah.
Et moi, c'est des moments que je déteste. À chaque fois, je suis là, je suis vraiment désolée, mais je suis obligée de te dire d'enlever ton voile. Enfin, tu vois, je m'excuse et tout. Elles sont « Ah, j'avais oublié, pas de problème et tout. » Elles n'en foutent même pas une histoire. Enfin, tu vois, c'est un non-fait.
Ouais.
Elles savent que de toute façon, on n'a pas le choix, qu'on est obligé de... C'est l'école qui est comme ça. Enfin, l'État qui est comme ça même. Et que voilà, c'est obligatoire et que de toute façon...
Puis en plus, là, ils sont en train d'essayer de le mettre... Enfin, il y a déjà les femmes... Les femmes accompagnatrices en sortie scolaire,
oui.
Ça elles ont plus le droit de le mettre.
Oui.
Et ils parlaient aussi dans le sport, mais je sais pas si ça s'est fait du coup.
Alors, j'ai pas suivi les dernières actualités, mais il avait été évoqué que par exemple dans le foot, il était maintenant interdit aux femmes de se voiler, etc. Sauf que je me suis questionnée si par exemple un jour il y a une grande compétition. Une grande compétition qui devait venir à se dérouler en France et que, par exemple, on devait recevoir l'équipe féminine du Qatar.
Ouais.
Et c'est ça. Alors... Sur quel truc on va se baser pour leur dire...
Si je me demande surtout si nos représentants auraient le courage de leur dire, bien sûr, amenez vos femmes, mais par contre, il faut seulement qu'elles enlèvent leur voile en rentrant sur le stade.
C'est vrai que diplomatiquement, il y aura un truc qui serait compliqué.
Petit problème de pétrole.
Donc, ouais. C'est le premier exemple qui m'est venu. Je me suis dit, OK, si on part du principe où on néglige nos citoyennes, si on parle de d'autres pays, de grandes compétitions, quel comportement ils auraient face à ça, en fait.
Puis, il y a pas mal de gens qui disent... nous, quand on y va, faut que les femmes se couvrent les cheveux. Ouais. Donc, quand elles viennent en France, faut qu'elles s'adaptent à la culture et qu'elles l'enlèvent. Mais en fait, non, nous, le principe, c'est que y a la laïcité, ça fait qu'on ne...
C'est la liberté de culte,
voilà,
en fait.
Voilà, liberté de culte, c'est pas de dire qu'on veut pas voir vos religions. Mmh. Ça veut dire que vous avez le droit de les...
Et ça, c'est un truc qui...
Pratiquer librement.
le concept de la laïcité est quand même assez problématique, car très soumis à interprétation de chacun, et on oublie un petit peu le principe...
Sur le principe, non, il n'est pas soumis à interprétation. Non. Le problème, c'est qu'il est mal... elle est utilisée à tort et à travers dans des débats à la con comme ça. Alors que... Non, mais c'est vrai.
C'est quand alors ça les arrange. Que...
Ouais, voilà, c'est quand ça les arrange. Mais en plus, Macron l'a redit il n'y a pas longtemps en disant... parce qu'il était en campagne pour le deuxième tour. Hein, et en disant que la laïcité, c'était la liberté de culte et pas l'interdiction.
Qui séduisent les islamo-gauchistes.
Ouais, alors que le mec a lancé, c'est lui, à cause de lui, c'est sous son quinquennat qu'elles ont été interdites d'accompagner leurs enfants. Quoi.
Gérald Darmanin, qui s'est joué grand défenseur des musulmans face à Bardella lors d'un débat, je ne sais plus sur quelle chaîne. Ouais. J'étais là, mais...
Macron aussi pour le débat avec Marine.
Voilà, c'est ça.
C'est quand même, on a remarqué, en tout cas, les personnes de la communauté musulmane avec qui j'ai pu en discuter, qu'on avait énormément mangé sous le mandat de Macron.
Ah non, mais oui, oui.
On a énormément mangé. Et quand on est allé voter au deuxième tour, on a dit, bon, quand on est allé voter pour la première élection, on s'est dit, on a tendu la joue gauche. Et puis là, quand on est parti voter contre Le Pen... On s'est dit, on tend la joue droite, en fait.
Bah, c'est ça.
Mais en fait, on n'a pas le choix.
Et c'est par... est-ce que tu as des exemples de choses qui... Enfin, comment vous l'avez ressenti de ces choses-là qui se sont aggravées?
Déjà, il y a la loi séparatiste qui est passée...
Exactement.
Lancée par Gérald Darmanin.
Exactement. Alors, en plus, j'ai pu travailler sur le sujet un petit peu avec les députés et les sénateurs du Loir-et-Cher. On avait beaucoup travaillé sur les lois. Après, je trouve que nous, on a eu de la chance au niveau du Loir-et-Cher parce qu'on a eu des députés, peu importe, les bords politiques, qui ont été vachement à l'écoute, qui ont fait des réunions avec les représentants religieux de toutes les religions. Parce qu'en fait, si on regarde bien les lois sur le séparatisme, parce qu'il y en avait énormément, étaient faites, on va dire, pour taper, entre guillemets, vraiment entre guillemets, sur les musulmans. Sauf que quand on regardait bien, ça a impacté énormément les autres religions.
Et c'était quoi, par exemple?
Alors, exemple très bête, la scolarisation à domicile. Sauf que là, ça concerne tout le monde. C'est un sujet... ça a été évoqué sur les lois sur le séparatisme pour dire « Oui, mais les familles musulmanes extrémistes qui veulent même pas scolariser leurs enfants dans les écoles publiques, etc., ou même dans les écoles privées, qui veulent garder leurs enfants pour leur transmettre une mauvaise philosophie de vie, etc. » Sauf qu'il n'y a pas que des musulmans qui scolarisent leurs enfants à domicile, en fait.
Loin de là.
Ça, c'était une des lois qui a impacté tout le monde, en fait. On va dire, la charte, il y avait une charte républicaine, le nom, il a évolué, mais quand on avait travaillé dessus, ça s'appelait la charte républicaine. C'était une charte qui disait que votre lieu de culte doit respecter les lois de la République et que la République est au-dessus de tout, entre guillemets, et qu'il faut respecter la République, etc. Et en fait, cette charte, il fallait qu'elle soit signée par tous les représentants des lieux de culte, sauf que si les représentants des lieux de culte refusaient de signer cette charte, les lieux de culte concernés ne recevraient plus aucune subvention de l'État. Sauf que, par exemple, sur toutes les mosquées du Loir-et-Cher, il n'y en a aucune, et je suis quasi sûre à 100% que c'est partout pareil en France, il n'y en a aucune qui reçoit des subventions de l'État.
Bah, bien sûr.
Nos mosquées, en fait, elles sont subventionnées par les fidèles. Il y a des dons, et c'est comme ça qu'elles sont entretenues. Sauf que sur les autres lieux de culte, par exemple les synagogues, les églises évangéliques, etc., c'est subventionné par l'État, et il y a des dons qui sont donnés aussi d'autres pays. Et en fait, il y avait des représentants de ces lieux de culte-là qui refusaient de signer la charte et qui, du coup, recevraient plus aucune subvention.
Ouais, eux avaient quelque chose à perdre, en fait.
C'est ça. Et en fait, ça a impacté énormément, que ce soit les autres religions ou même d'autres personnes qui croyaient en aucune religion. Ouais. Ça a impacté tout le monde, en fait. Et on va dire très peu les musulmans, ce que j'ai trouvé assez drôle, parce que c'était le but, on va dire. Et du coup, ils se sont un peu loupés. Et on leur a dit, bah, en fait, nous aussi, on est contre les terroristes, contre l'extrémiste et tout. Enfin, on est tous de la même équipe, entre guillemets. On est tous contre ces gens-là, que ce soit musulmans ou non. Sauf que, en fait, au lieu de vouloir taper sur les uns et sur les autres, venez, on joue la prévention, en ouais. fait.
Et on met des moyens pour éduquer nos jeunes.
Exactement. On leur a expliqué qu'en fait, ça commence dès le plus jeune âge. Par exemple, au collège, où ils sont vachement en train de réfléchir à tout et rien, et où ils sont vachement attentifs, et c'est là qu'ils font leur éducation. On leur a dit, mais misez sur la jeunesse, en fait. Mettez plus de moyens, faites-leur aimer notre pays, parce que le sujet aussi qui a été évoqué, c'était, oui, mais la plupart des jeunes... des jeunes, quand on leur demande « Est-ce que vous êtes français ?», ils répondent « Non, je suis algérien, je suis marocain, etc. » Sauf que...
Pourquoi ils se disent ça, exactement.
Pourquoi ils se disent ça? Moi, je travaille au collège, dans un collège REP+. Et du coup, quand on regarde bien, ils sortent très peu du quartier. On leur donne très peu une culture...
Ils ont peur de sortir du quartier. Moi, ça m'avait choqué. Hein. Il y avait un élève qui m'avait dit... Parce que souvent, je croise des élèves en ville, ça m'arrive, tu vois, de croiser quand je me balade en ville. Et un élève qui m'avait dit, je lui avais dit, bah, moi, c'est bizarre, je te croise jamais en ville. Parce qu'il me demandait où j'habitais. Et je lui dis, bah, pourquoi toi, tu viens jamais en ville? Il me dit, parce que je suis flippée, en fait. Genre, à chaque fois que j'y vais, je vais avec mes potes, tout le monde me regarde mal. Genre, j'ai l'impression que dès que je fais un truc, c'est pas bien. Et je me sens pas du tout à l'aise, en fait, ça, dès que je sors du quartier. Parce que je suis jugée en permanence. Mmh. Parce que ça se voit que il est marocain et que c'est écrit sur sa tête, hein, malheureusement, le pauvre. Et c'est une tristesse de se dire que... Donc là, lui, il m'a dit ça, je crois que c'était début de cette année, donc début de quatrième, tu vois. Donc il devait avoir 12-13 ans max.
Et au même titre que... Enfin, moi, je pense que pour avoir une image quand t'es blanc et que t'as un laissez-passer partout et que tu te fais jamais regarder comme ça, je pense que tu peux penser, par exemple, quand... t'arrives dans un milieu que tu connais pas du tout, tu vois, je sais pas, un premier jour de stage ou enfin tu vois, et que tu te sens pas du tout à ta place ou que t'as pas les codes, que tu connais pas les je pense que ça fait à peu près la même
puis tout est fait, tu vois, pour qu'ils restent dans le quartier.
Ouais, bah bien sûr,
on leur a tout mis à disposition pour que ils aient pas besoin d'aller trop loin et de s'aventurer trop loin. Enfin, ils ont, et ouais, c'est ça, et c'est hyper triste.
Et puis en plus, on crée au communautarisme là-bas, alors que c'est, enfin, tu vois, c'est Sarko et tout ça qui l'ont créé, le capital.
Puis c'est la façon dont sont construits les quartiers et la ghettoisation.
Exactement.
Ouais.
C'est les logements sociaux, en fait. Tous les logements sociaux sont au même endroit, et alors qu'on pourrait très bien décider d'en mettre un peu partout et de créer une mixité et d'avoir pas des collèges où t'as 80% ou 90% de boursiers et des collèges où il y a que des blancs et qui connaissent rien d'autre, en fait.
Ouais.
Parce que je pense que tout le monde a quelque chose à gagner dans la mixité.
Bah après, peut-être qu'on aurait moins de racistes qui ont peur de tout ce qu'ils connaissent pas, quoi.
C'est ça.
Ça pourrait être souhaitable.
Ce serait un monde parfait.
Ouais. Et moi, j'avais une autre question. C'était par rapport, par exemple, à la place d'une femme dans son couple. Tu vois, est-ce qu'on a un peu l'impression que... enfin, on a cette image occidentale, encore une fois, de la femme musulmane qui est coincée chez elle, qui va pas travailler et qui ne peut pas, en fait, aller travailler. Enfin, tu vois, c'est toute cette, tous ces préjugés. Et voilà.
Alors, la place de la femme, moi, je dirais qu'elle est... Elle est trop bien pour nous. Parce que, par exemple, une femme, elle a pas l'obligation de travailler. C'est pas une obligation. L'homme, c'est une obligation. Il n'a pas le choix. Ça fait partie de la religion. Il doit aller travailler parce que l'homme a l'obligation de payer toutes les factures de la maison.
Mais après, ça, c'est pas forcément une... Si tu peux pas travailler, tu peux pas être indépendante non plus, en même temps.
C'est en fait, la femme, elle a le choix.
Ok.
Elle peut travailler, mais c'est elle qui décide. Et c'est pas son mari ou qui que ce soit qui va lui dire « Ouais, faut aller travailler ». C'est elle qui décide. Et en fait, si la femme décide d'aller travailler... Sa paye, elle est pour elle. Son mari n'a aucun droit dessus, alors que la femme a tous les droits sur la paye de son mari. Ça fait vraiment partie de la religion. Alors que la femme a tous les droits sur la paye de son mari, mais l'homme il n'a pas le droit de lui dire, même pour 20 centimes, il a pas le droit de dire quoi que ce soit. Et en fait, sa paye, elle est pour elle. Et si elle décide d'utiliser sa paye pour payer ses factures, pour aller faire des courses, pour... Eh ben, en fait, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est des bons points. C'est des... nous, on appelle ça des hasanettes. C'est des bons points pour le paradis. C'est comme si elle faisait du bénévolat. C'est comme si elle faisait du bénévolat, alors que l'homme, ça fait partie de ses obligations. Si elle veut garder son argent, c'est souvent ce qui se fait de plus en plus par les jeunes aujourd'hui, parce qu'en fait... on va dire que le patriarcat, il avait fait en sorte que les anciennes générations adaptent ça à leur bon vouloir. Sauf qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont très très bien compris que c'était comme ça et que vous allez arrêter de remixer la religion à votre bon vouloir, messieurs. Et que du coup, souvent, ce qui se passe, c'est que maintenant, les femmes, avant de se marier, les jeunes en tout cas, elles mettent les choses au clair avec monsieur. Elles leur disent « Ok, d'accord, sauf que moi, maintenant, je pars du principe, si tu veux te marier avec moi, mon argent, je veux le garder pour moi, je veux faire mon entreprise ou je veux faire ceci, cela. » Enfin, elles veulent monter leur empire et elles ont totalement raison. Et en fait, elles font ce qu'elles veulent de leur argent. Si elles veulent le garder pour s'acheter que des sacs, bah, elles ont le droit de le garder pour s'acheter que des sacs. Et en fait, vraiment, elles en font ce qu'elles veulent de leur salaire. Et si elles ne veulent pas travailler, et bah, c'est dans leur droit de ne pas travailler. Mais souvent, elles travaillent et soit elles disent « Bon, ok, tu sais quoi, on va payer les factures à deux parce que, vas-y, c'est ton pied, mon pied, on est ensemble, etc. » Et donc, dans ce cas-là, bah, elles gagnent leur bon point. Et dans l'autre situation, c'est je garde mon argent, tu payes les factures, etc. Et ensuite, je monte mon entreprise ou je voyage. En fait, elle en fait vraiment ce qu'elle veut. Donc ça a souvent été oublié et c'est très, 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 très peu évoqué. Alors que c'est un droit, en fait. C'est un droit pour nous, femmes, et c'est une obligation pour messieurs. Mais après, ce qui se fait souvent, c'est que... quand elle décide de payer les factures, etc., c'est compte commun. Et puis, de toute façon, oui, les deux salaires dessus, et ce qui se fait, se fait.
Oui. Ce qui se fait de façon en France, souvent pour les couples en général, quoi.
Exactement. Voilà.
Il y a la question de la dot, dont on a déjà parlé toutes les deux.
Yes.
C'est un vaste sujet, je sais que ça te fait plaisir d'en parler. Donc,
exactement. La dot. Alors, la dot, en fait, c'est une obligation. La dot, c'est vraiment une obligation, parce que s'il n'y a pas de dot, il y a des femmes très gentilles, très, j'ai tendance à dire, naïves, qui se laissent avoir par leurs sentiments, et qui disent « Non, tu sais quoi, je veux juste me marier avec toi, je refuse ma dot, t'inquiète pas !» Sauf que non, c'est une obligation pour valider le mariage. Si par exemple, demain je me marie et que je refuse la dot...
Donc c'est une dot qui est versée du mari, enfin de la famille du mari.
Alors, c'est demandé par le papa.
De la femme, du coup ?
Le papa de la femme. Et c'est demandé pour sa fille.
Okay.
Alors, il y a d'autres, courants de l'islam. Qui prétendent que c'est pour le papa, etc. Sauf que moi, je suis sunnite malikite. Et du coup, la dot, c'est pour la femme.
Okay.
C'est pour la femme. Personne n'a de droit dessus. Elle demande ce qu'elle veut. Et ensuite, c'est le mari qui doit donner la dot à la femme avant le mariage. S'il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage. Alors après, souvent, ce qui est demandé, c'est soit... auparavant, c'était de l'or. De l'or, parce que c'était une valeur sûre et que, par tradition aussi, les femmes aimaient énormément les bijoux en or, etc. Et qu'aussi, si un jour, le mari a un accident, parce que c'est le mari qui doit subvenir aux besoins de la famille, s'il avait un accident, etc., bah, elles avaient toujours, si elles ne travaillaient pas, elles avaient toujours la valeur sûre de pouvoir revendre leur or pour pouvoir se retourner, en fait.
Ouais.
Et du coup, c'était un peu une valeur sûre. Et puis, si jamais, bah, il n'y a jamais besoin de revendre cet or, et bah, en fait, c'est l'héritage de... S'il y a une fille, par exemple...
Ouais, ce que tu laisses à tes enfants.
Voilà, exactement. Moi, j'ai reçu de l'or de ma grand-mère à son décès. Elle avait déjà dit que, voilà, tel collier, je veux le donner à un tel, etc. Et puis, ça s'est fait de toute façon, le partage s'est fait automatiquement... dans la famille, etc. Et puis je sais qu'il y a l'or de ma maman, et puis si moi je touche jamais à cet or, bah, je le transmettrai, j'espère, à ma fille.
Et du coup, c'est un truc que tu transmets à ta fille et pas à ton fils. Ça passe vraiment de
alors,
femme en
si,
femme.
Alors, c'est, enfin, quand il y a une bonne entente, enfin, c'est donné au fils. Mais il y a, on va dire, c'est plus une valeur sentimentale. Par exemple, moi, mon papa, il a reçu. Moi, j'ai reçu de l'or de ma grand-mère et c'était sa maman. Et mon papa a aussi reçu de l'or de sa maman. C'est le partage s'est fait automatiquement, en fait, enfin, naturellement. Et c'est plus une valeur sentimentale. Et mais après souvent enfin le l'homme transmet à sa fille ouais. ou à sa femme.
Mais voilà. Si ton père un jour quand il décédera, il te transmettra à toi ou à
exactement.
Ses autres enfants.
Alors moi mon parce père il a déjà donné à ma mère, il lui a dit tu gères. Parce que c'est souvent ce qui se passe aussi dans les foyers, c'est ils font semblant que dehors que c'est l'homme qui commande, sauf que à la maison c'est la femme, c'est la femme qui gère tout et c'est elle qui commande.
Et puis du coup il y a aussi dans la dot un truc aussi de méfiance des hommes. Enfin, tu vois, il y a le truc si jamais on te fait un coup derrière le dos, s'il y a de l'infidélité et que t'en viens à divorcer, t'auras quand même ce truc-là de tu te retrouves pas sans rien, juste avec ta peine, quoi.
Exactement. Alors c'est pour ça que c'est enfin par exemple, enfin il y a beaucoup de comptes Instagram, etc. où les filles en fait essaient de réveiller nos sœurs, etc. en leur disant mais les filles, réveillez-vous, demandez, prenez, c'est un droit en fait, c'est pas juste comme ça, c'est un droit, c'est un devoir pour eux. Demander des vraies choses, arrêter de demander un euro symbolique ou je sais pas quoi, demander des vraies choses parce que demain, si te trahis ou si te fait n'importe quoi, bah, tu t'es pas sans rien déjà. Et puis, même eux, hein, c'est bizarre, mais même eux, bizarrement, ils auront du mal à te trahir parce qu'ils vont dire ou à te quitter ou n'importe parce qu'ils vont dire ouais, quand même ouais. J'ai craché hein, j'ai
c'est un retour sur investissement,
c'est ça, parce
qu'il y a un engagement du coup, un vrai engagement aussi bon on dit c'est financier là pour le coup ouais. Mais du coup ça te demande quand même un effort et c'est pas tu vas pas t'engager avec n'importe qui en donnant une somme d'argent
c'est ça parce c'est que derrière... ça peut vraiment enfin vraiment on va dire une somme à peu près ça peut aller en entre 500 et 20 000 euros.
Ouais.
Quand on parle de c'est plus simple aussi de demander en bijoux en or parce que les prix montent vite. Si on vous demande
ouais, t'attends le bon moment, hein.
Une parure, il y a une par exemple ce qui se fait souvent c'est une parure donc bracelet, bague, collier, boucle d'oreille plus d'autres bracelets. Et c'est du 19 carats qui est demandé, c'est pas.
Ouais.
Donc en fait en somme ça monte super vite. Et puis c'est bizarre aussi parce que ça, c'est un sujet qui avait déjà été évoqué plusieurs fois avec plusieurs nanas. Et en fait, on a pu constater que plus la somme était élevée, et bizarrement, enfin je sais pas, mais bizarrement, ça a impacté énormément le respect que la belle famille ou même ton mari pouvait avoir vis-à-vis de toi.
Il y a un truc aussi où tu te donnes de la valeur, quoi.
C'est ça, exactement. C'est bizarre, c'est peut-être psychologique, je sais pas, j'ai aucune connaissance là-dessus, mais ouais, ça impacte vraiment la façon dont ta belle-mère pourra te regarder, parce que...
Ouais, c'est fou.
Elle aussi, forcément, si c'est des bijoux, il y en a qui n'ont pas forcément l'argent d'aller acheter une parure en or, etc., mais qui donnent, du coup... Enfin, leur maman va leur dire, bah, tu sais quoi, j'ai une parure, on va l'offrir à ta femme, etc. C'est symbolique. Parce
du coup,
que,
ouais, il y a un engagement
voilà,
aussi
exactement.
De la maman du monsieur
c'est ça.
Envers sa belle-fille.
C'est ça.
Et qui va aussi peut-être dire à monsieur, fais pas n'importe quoi, parce que ta mère, elle s'est aussi engagée.
Exactement.
Ok. On arrive au bout là, de notre temps d'antenne, parce que c'est passé très très vite. Potentiellement, on pourra faire un épisode 2, parce que je pense qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, qu'on pourrait aborder. Et merci Keltoum d'être venue discuter avec nous, c'était très chouette, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter.
Avec plaisir, vraiment, quand vous voulez.
Et bah, nous, on se dit...
À bientôt.
À bientôt.